Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Sélection du Reader's Digest, Protégez-vous et Urbania. Au programme, cancer du sein, 9 symptômes, autres que les bosses, qu'il faut connaître. 13 choses à savoir sur le chocolat. Et ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? Bonne écoute!
Cancer du sein. 9 symptômes, autres que les bosses, qu'il faut connaître. Un texte de Lisa Milbrand, paru le 30 septembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Une masse ou une bosse sont, pour le cancer du sein, les symptômes plus connus. Mais il en existe d'autres qui devraient vous inciter à consulter un médecin sans délai. Premier symptôme. Fossette. On a déjà vu par le passé cette publication virale dans les réseaux sociaux qui présentait le symptôme d'une femme atteinte du cancer du sein. Une petite fossette sur le bord de la poitrine. C'est le type de signe de tumeur que l'on rate facilement pendant l'auto-examen mammaire mensuel. Il s'agit de fossettes très délicates sous le sein que l'on peut aisément laisser passer quand on est à la course le matin, raconte Lisa Royle de Manchester, en Grande-Bretagne, qui a partagé sa photo sur Facebook. La docteure Anita Johnson, directrice médicale en oncologie chirurgicale du sein des cancers Treatment Centers of America à Atlanta, renchérit. Toute fossette ou rétractation de la peau sur vos seins devrait être examinée par votre médecin. Deuxième symptôme. Irritation de la peau. Une irritation de la peau peut avoir diverses raisons, notamment un soutien-gorge mal ajusté, des boutons de chaleur ou une dermatite de contact. Dans de rares cas, il pourrait s'agir d'un symptôme de cancer du sein. Si vos seins présentent des rougeurs inattendues, de l'enflure, de l'irritation, des démangeaisons ou des éruptions cutanées nouvelles ou persistantes, consultez votre médecin, conseille la docteure Jessica Shefford, gynécologue au Baylor Scott and White Women's Health Group de Dallas. Troisième symptôme, écoulement des mamelons. Les écoulements mammaires sont chose courante pour les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes. Mais chez les autres femmes, certains types d'écoulements devraient être examinés par un médecin. Un écoulement mammaire opaque, de teinte verdâtre ou jaunâtre, ou qui contient du sang, pourrait être un symptôme de cancer du sein, souligne la docteure Shefford, et encore plus s'il est spontané, ce qui le rend davantage préoccupant. Quatrième symptôme, taches de rousseur. Des taches foncées ou taches de rousseur inhabituelles ne sont pas la seule bonne raison de voir un dermatologue, mais pourrait également annoncer une forme plus rare et plus agressive de cancer du sein, le cancer du sein inflammatoire, CSI, prévient la docteure Johnson. En cas de taches de rousseur qui se multiplient rapidement, consultez votre médecin. Mais pas de panique, ce type de cancer est extrêmement rare. Cinquième symptôme, taches rouges ou ecchymoses. D'autres signes de CSI peuvent être des taches rouges ou des marques sur la peau ressemblant à des ecchymoses, ajoute la docteure Johnson. Si c'est votre cas et qu'elle persiste plus de 2 ou 3 semaines, faites-vous examiner. Mais là encore, rappelez-vous que ce type de cancer est rare. Plusieurs sortes de taches rouges sur la peau, comme les angiomes rouges cerises, sont totalement inoffensives. Il y a 2 ans, Jennifer Cords a noté une mystérieuse éruption sur l'un de ses seins. Sa mammographie ne présentait aucun signe de cancer. Comme la tache ne disparaissait pas, Même après des antibiotiques, elle a passé une biopsie qui a révélé un CSI. Sixième symptôme, changement de forme des mamelons. Les mamelons ne changent normalement pas de forme, de taille ni de couleur, sauf durant la grossesse. Mais si vous constatez un quelconque changement, y compris une rétraction ou un retournement du mamelon vers l'intérieur, il faudrait vous faire dépister pour le cancer du sein, conseille la docteure Shepherd. Des brûlures et des démangeaisons des mamelons pourraient annoncer une maladie de Paget du mamelon. Une forme rare de cancer, explique la docteure Johnson. Cela touche habituellement le mamelon et la peau qui l'entoure, aréole. La peau des mamelons peut paraître squameuse ou écailleuse, ou encore croûteuse, suintante ou épaissie sur le mamelon ou l'aréole, ou les deux à la fois. Cela peut aussi provoquer une sensation de picotement ou de brûlure, ajoute-t-elle. Il existe de nombreuses causes non cancéreuses pour des seins squameux ou qui picotent, mais il vaut toujours mieux vous assurer de leur cause. Faites part de toute inquiétude à votre médecin, conclut-elle. Septième symptôme, changement de texture de la peau. Un changement de la peau des seins pourrait annoncer un problème. Le cancer du sein provoque parfois un changement dans leur texture, précise la docteure Shepherd. Surveillez toute rougeur persistante ou peau granuleuse comme une orange. C'est le signe d'une inflammation du tissu mammaire provoquée par des cellules cancéreuses qui bloquent les petits canaux lymphatiques dans le sein et entraînent l'accumulation de liquide. Huitième symptôme, gonflement ou sensibilité. Le gonflement ou la sensibilité des seins sont courants chez les femmes à certains moments de leur cycle menstruel et peuvent même annoncer une grossesse précoce. C'est pourquoi les femmes ne l'interprètent pas souvent comme un signe avant-coureur de cancer du sein. Si l'un des seins semble particulièrement hypertrophié ou gonflé, il vaudrait mieux le faire examiner, conseille la docteure Shepherd. Vous pourriez ne pas sentir une bosse située en profondeur, mais constater un gonflement. Une masse dans le sein peut vous échapper, mais sous l'aisselle, ce pourrait être un ganglion lymphatique hypertrophié, signe d'un cancer du sein qui commence à se propager, ajoute-t-elle. En faisant votre auto-examen mensuel, vérifiez toujours sous l'aisselle s'il y a un gonflement des ganglions lymphatiques. Neuvième symptôme, changement de taille et de forme des seins. De l'embonpoint, des changements dans le cycle menstruel, une grossesse ou l'allaitement peuvent avoir un impact sur la taille et la forme de vos seins. Mais si vos seins changent de forme indépendamment de ces facteurs et de façon soudaine, cela pourrait être un signe de cancer du sein que vous devriez faire dépister par votre médecin, explique la docteure Johnson. Comme cela peut se produire une semaine avant vos menstruations, attendez la semaine subséquente pour vérifier si tout est revenu à la normale. Quand cela se produit dans les deux seins, il est peu probable qu'il s'agisse d'un cancer. C'était « Cancer du sein, 9 symptômes autres que les bosses qu'il faut connaître », un texte de Lisa Milbrand, paru le 30 septembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
« 13 choses à savoir sur le chocolat ». du 15 avril 2022, tiré de la revue Protégez-vous. Saviez-vous que pour profiter des vertus du chocolat, mieux vaut éviter de boire du lait quand on en mange? Numéro 1. Le chocolat doit renfermer du cacao, beurre, liqueur ou poudre de cacao et peut contenir un agent émulsifiant, monoglycéride, lécithine, etc. Des épices, du sel, du sucre ou un édulcorant notamment. 2. Les proportions de solides de cacao et des solides de lait sont normalisées dans le règlement sur les aliments et drogues pour les différentes variétés de chocolat, le noir, amer, mi-sucré, sucré, au lait blanc, etc. 3. Le chocolat, et plus précisément le cacao, est une excellente source de magnésium, de phosphore, de fer, de manganèse et de zinc. Il fournit aussi des vitamines du complexe B et est très riche en antioxydants. 4. Une partie de ces acides gras sont monoinsaturés, et ceux-ci contribuent à abaisser le taux de cholestérol LDL, mauvais, dans le sang, et à augmenter le cholestérol HDL, bon. Le chocolat contient beaucoup de gras saturés, mais il s'agit d'acide stéarique qui n'a pas, comme les gras saturés en général, un effet néfaste sur le taux de cholestérol et la santé cardiaque. 5. Avant de vous jeter sur cette douceur pour ses bienfaits potentiels, rappelez-vous que le chocolat est très riche en calories et qu'il contient de 30 à 35 % de lipides. En d'autres mots, c'est comme si un morceau sur trois que vous dégustez ne fournissait que du gras. Bref, en grande quantité, le chocolat peut nuire au maintien d'un poids santé et ultimement à la santé du cœur. Rien n'est parfait. 6. Il existe du chocolat sans sucre ajouté, édulcoré au fructose ou au maltitol, mais qui reste quand même très dense en calories et en gras. 7. Friandises chocolatées. Si le produit renferme un corps gras autre que le beurre de cacao, il ne peut pas être appelé chocolat. Vous ne trouvez pas d'huile hydrogénée, de copra, de palme ou autre dans du vrai chocolat. 8. Mieux vaut privilégier le chocolat noir contenant un minimum de 56 % de cacao et éviter les friandises chocolatées. 9. Surveillez l'origine du cacao. Si vous voulez déguster un grand cru, le chocolat haut de gamme précise cette information. 10. C'est dans le cacao que se trouvent les éléments nutritifs et les antioxydants. Le chocolat noir est donc plus riche en ces nutriments que le chocolat au lait et le chocolat blanc. Ce dernier étant fait uniquement de beurre de cacao, ni liqueur, ni poudre, il n'offre pas les bienfaits associés à la consommation de cacao. 11. Pour profiter au maximum des vertus du chocolat, mieux vaut privilégier le chocolat noir à celui au lait et éviter de boire du lait quand on en mange. Selon certaines études, le lait peut inhiber l'absorption de certains antioxydants flavonoïdes dans l'intestin et ainsi diminuer les capacités antioxydantes du cacao. 12. Malgré sa richesse en antioxydants, le chocolat a deux défauts majeurs. Ses teneurs élevées en calories et en gras. Pour profiter des bienfaits des antioxydants, il vaut donc mieux consommer une variété d'aliments qui en sont riches, comme les fruits, les légumes, les céréales à grains entiers, etc. Et le chocolat est avant tout un aliment à croquer pour le plaisir des sens. 13. On prétend souvent que le chocolat, comme les fraises ou le vin, par exemple, est susceptible de provoquer des réactions allergiques, des rougeurs ou des démangeaisons, par exemple. En réalité, il s'agit d'une réaction alimentaire dans laquelle aucun mécanisme immunitaire n'intervient. Elle traduit une incapacité de l'organisme à supporter un aliment aux doses tolérées par d'autres individus. On distingue trois types de pseudo-allergies, dont une liée à la consommation d'aliments riches en histamine ou en thyramine, comme le chocolat et le fromage. Cet article a initialement été publié dans notre guide pratique Que choisir à l'épicerie, et pour consulter la liste des guides que vous pouvez vous procurer, rendez-vous dans notre boutique. On parle de la boutique, bien sûr, de Protégez-vous. C'était 13 choses à savoir sur le chocolat, daté du 15 avril 2022, par la revue Protégez-vous.
Ça mange quoi en hiver? Un chercheur ou une chercheuse? Un texte de Catherine Foisy, paru le 6 mars 2023 dans Urbania. Urbania et l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS pour les intimes, s'unissent pour déboulonner les mythes qui entourent le milieu de la recherche, ce secret bien gardé, du monde des études supérieures. Tout le monde sait à peu près ce que sont le cégep et l'université, mais dès qu'on s'aventure au sein des cycles supérieurs, les choses commencent à se complexifier. Ça mange quoi en hiver, une personne qui se consacre à la recherche scientifique? C'est la question à partir de laquelle on a mené notre propre recherche. Première étape, échanger avec deux chercheuses de l'INRS, un établissement universitaire qui se consacre à la recherche et à la formation au cycle supérieur. Tous les chemins peuvent mener au doctorat. Je me souviendrai toujours du jour où une professeure m'a dit que mes notes n'étaient pas assez bonnes pour que je puisse faire un stage. Raconte Aïcha Sow, aujourd'hui candidate au doctorat en virologie moléculaire, une discipline scientifique qui s'intéresse aux virus et aux agents infectieux. Mais son chemin était loin d'être tracé d'avance. Pendant son baccalauréat en sciences biomédicales, Aïcha n'avait aucune idée de ce qu'elle souhaitait faire de sa vie. Elle a dû essuyer pas mal de jugements portés à son égard quand on lui demandait « Tu veux faire quoi plus tard ?» et qu'elle n'avait pas de réponse. Cela la démotivait, si bien que ses notes franchissaient de justesse le seuil de passage, jusqu'à ce qu'elle décide de se mettre au défi de se rendre à la maîtrise, ce qu'elle a réussi. C'est finalement lors d'un stage en laboratoire pendant sa maîtrise en biochimie qu'elle est tombée en amour avec la recherche. La recherche me permet de mettre en pratique tout ce qu'on considérait comme des défauts chez moi quand j'étais enfant, soit mon immense curiosité et mon amour pour les détails, explique-t-elle. De la Colombie au Canada, en passant par le Brésil. Diana Peña Ruiz est née en Colombie et a étudié au Brésil. Elle s'amuse à dire que la recherche fait partie de son ADN parce qu'elle a vu son père travailler fort en tant que chercheur et a presque toujours su qu'elle obtiendrait un jour son doctorat. Littérature, anthropologie et démographie sont les trois domaines d'études qui ont fait partie de son quotidien avant qu'elle décide de se lancer dans un doctorat en études des populations à l'INRS. C'est une prof du Brésil qui nous a parlé de l'INRS. Quand j'ai voulu être admise quelque part pour faire un doctorat, des années plus tard, je regardais mes options aux Pays-Bas, en Amérique latine, en Australie, au Canada et un peu partout. Je me suis alors souvenue de l'INRS. J'ai écrit à l'Institut et j'ai pu me faire accompagner par plusieurs personnes, dont celle qui est aujourd'hui ma directrice de recherche. Dans le cadre de son projet de recherche, Diana s'intéresse aux accumulations patrimoniales et aux inégalités de genre en matière d'intégration financière parmi la communauté colombienne à Montréal. Note à nous-mêmes, il y a presque autant de concentrations de recherche qu'il y a de sciences. Vous écoutez, ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? Un texte de Catherine Foisy, paru le 6 mars 2023 dans Urbania. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avec l'aide d'une orthopédagogue, Diana a réussi à organiser son emploi du temps de manière à maintenir un certain équilibre entre sa vie de chercheuse et sa vie personnelle. J'ai compris que j'étais plus concentrée et inspirée le matin. Je me réserve donc des choses qui nécessitent moins de concentration l'après-midi, explique-t-elle. En plus de consacrer du temps à sa propre recherche, Diana travaille à la réalisation d'une autre recherche avec sa directrice et assiste la coordination de Familles en mouvance, un partenariat de recherche dont fait partie l'INRS. Les 4 bourses qu'elle a obtenues, auxquelles s'ajoute le salaire qu'elle obtient grâce à ses 2 contrats de recherche, lui permettent de financer ses études et de payer son appartement. Autre note à nous-mêmes, oui, c'est possible de vivre de bourses et de contrats en milieu universitaire. Aïcha, de son côté, organise ses journées autour des expériences qu'elle souhaite réaliser. En 5 ans, je n'ai jamais eu 2 journées pareilles. Même si je prévois ma semaine le lundi, je ne suis jamais à l'abri de surprises qui m'obligent à revoir mon horaire, explique-t-elle. Ces surprises ne l'empêchent quand même pas de sortir de temps en temps et d'avoir des week-ends trépidants. Geek de jour, fashionista de soir et boulangère à temps partiel. Quand on pense aux chercheurs et aux chercheuses, on s'imagine, à tort, des personnes qui ont constamment les yeux rivés sur leurs expériences et leurs bouquins. Certes, il faut être passionné de recherche, mais pas que. Je suis fière d'être une geek. Mon émoji préféré est d'ailleurs celui avec les lunettes, parce que je trouve qu'il me ressemble, déclare Diana avec un brin d'humour. Même si elle se qualifie elle-même de geek, Diana a plusieurs passions qu'elle entretient le soir et la fin de semaine. Littérature, boulangerie et pâtisserie sont 3 d'entre elles. Elle a même ouvert sa propre boulangerie en Colombie après sa maîtrise, juste avant l'INRS, histoire de se donner le temps de vivre autre chose. Notons que son petit côté autodidacte lui a quand même grandement servi, puisqu'elle a appris à faire son pain et ses pâtisseries toute seule en lisant sur le sujet. Aïcha, de son côté, ne se considère pas comme une nerd ni une geek. Il faut savoir que, si elle préfère porter jeans et sneakers au labo pour son confort, elle ne sort jamais de chez elle sans ses talons hauts et elle tripe sur les voyages. Énième note à nous-mêmes, la recherche et le style sont compatibles. Démocratiser la recherche, un geste à la fois. J'aurais aimé qu'on me parle de recherche quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait permis d'apprécier mon bac et de me sentir moins perdue, conclut Aïcha, qui aspire à faire de la recherche sa carrière. Aïcha est actuellement l'une des rares chercheuses sénégalaises. Un rapport de l'UNESCO révélait en effet qu'en 2018, Seulement 2,5 % des personnes se consacrant à la recherche scientifique dans le monde étaient africaines et que seulement 29,3 % des chercheurs-chercheuses sénégalais-sénégalaises étaient des femmes. C'est cette statistique qui l'a poussé à créer sa propre fondation, Jigin in STEM, J-I-G-E-E-N, in S-T-E-M. Pour la petite histoire, Jigin veut dire « femme » en Wolof, sa langue d'origine, et STEM ou STIM en français est un acronyme courant pour science, technologie, ingénierie et mathématiques. Grâce à sa fondation, Aïcha offre des bourses aux jeunes Sénégalaises qui souhaitent se lancer dans ces domaines et fait connaître des parcours de chercheuses. En résumé, ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? Pas mal de choses. Et c'est tant mieux, parce que la recherche a besoin d'une diversité de personnes au parcours pluriel pour faire avancer notre société. C'était « Ça mange quoi en hiver, un chercheur ou une chercheuse? » Un texte de Catherine Foisy, paru le 6 mars 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Serge Hamelin et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.